Voilà, mes amis, on va reprendre aujourd'hui notre cours de Zohar. J'espère que vous avez étudié attentivement et profondément tous les cours de Zohar qui ont été déjà donnés jusqu'à présent. Et on continue notre cours. Mikan ve ule ela, c'est-à-dire, j'explique d'après le commentaire, Mishem a Elohim ashlishi atzof aparasha shel yom rishon, niska chamesh pa'amim or. Le commentaire explique, le Matok Midvash explique qu'à partir du troisième nom Elohim, on a mentionné et on a expliqué dans les précédents cours ce qui se passait entre les différents noms Elohim. Il faut bien réécouter les cours précédents. Mais le nom Elohim est cité donc une troisième fois. Et jusqu'à la fin du premier jour, il n'est plus mentionné, mais par contre, le mot « or », qui veut dire la lumière, est mentionné 5 fois jusqu'à la fin du premier jour. Donc, « niskar chamesh pa'amim or », 5 fois, le mot « or », le mot « lumière » est prononcé dans le premier jour de la création. Alors, bien sûr, quel est le sens profond ?« Ve'uba l'eramez » à quoi le fait que 5 fois le nom lumière est mentionné, à quoi cela fait allusion? Il explique. Or deidbarea, or shenivra beyom arishon, la lumière qui a été créée le premier jour, il ne s'agit bien sûr pas de la lumière des astres, puisque selon les codes bibliques, les astres, le soleil, la lune ont été créés beaucoup plus tard. Alors de quelle lumière il s'agit? Il s'agit de la lumière qui provient de la Svira de la Bina. On a déjà expliqué dans les précédents cours que la racine de la création provient de la Bina. Comme on l'a déjà expliqué, je vais aller doucement parce que ce sont des notions extrêmement profondes. La Bina est une force divine qui est complètement au-dessus de ce monde. Mais d'une certaine manière, le monde d'en bas s'enracine dans le monde d'en haut. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le projet divin est de connecter le monde d'en bas, le monde de la matière, avec ses forces qui sont complètement surnaturelles, qu'on pourrait, je n'aime pas trop l'expression, mais qu'on pourrait appeler des forces divines, donc des forces infinies. Et tout le but de la création était de connecter le monde de la matière, qui est un monde extrêmement limité, de le connecter avec la Bina, qui représente des forces divines illimitées, et de permettre à l'homme dans ce monde de se connecter à des forces qui sont complètement surnaturelles, et d'une certaine manière d'avoir un lien profond, authentique, avec le maître du monde, qui est dans son essence complètement illimité. Comme on l'a déjà expliqué dans d'autres cours, et je reviens sur cette notion, et on va le voir justement dans le texte que nous étudions aujourd'hui, la faute de Adam a déconnecté complètement le monde d'en bas du monde d'en haut. Et le monde d'en bas est tombé dans une sorte de prison naturelle, je fais allusion à la nature, où l'homme est extrêmement limité. Et comme j'ai déjà expliqué dans d'autres cours aussi, c'est que la vraie Torah, comme il est dit dans un verset, Hachem oz le amoiten, en oz la Torah, Dieu a voulu donner la puissance à son peuple. On parle justement de la puissance qui provient de la Bina. En oz et la Torah, la véritable puissance nous a été donnée par l'intermédiaire de la Torah. Malheureusement, toutes les fautes du Ham Israël, du peuple juif et de l'humanité tout entière, ont d'une certaine manière complètement falsifié la Torah, c'est ce que j'appelle moi aujourd'hui la religion, que ce soit la religion chrétienne, musulmane ou juive et d'autres religions. La religion, elle, n'a rien à voir avec la Torah. La religion, elle, au contraire, affaiblit les hommes et les maintient dans cette prison matérielle, peut-être encore beaucoup plus que la laïcité. Mais la véritable Torah, qui existe encore dans notre monde, comme on va le voir, mais qui n'existe qu'au niveau d'une extrême minorité d'hommes authentiques, cette vraie Torah est complètement cachée. Elle donne effectivement des forces surnaturelles à ceux qui ont le mérite de pouvoir se connecter à elle, mais il reste une toute petite minorité dans ce monde. Et donc tout le travail de l'homme authentique, c'est d'agir pour reconnecter le monde d'en bas au monde d'en haut, afin que se déversent dans le monde d'en bas des forces divines, des forces surnaturelles, qui permettront à l'homme de se libérer de toutes les limites du monde matériel. Je ne dis pas qu'il quittera le monde matériel, mais tout en étant dans le monde matériel, il recevra des forces qui lui permettront justement de pouvoir être au-dessus de toutes les tentations, de toutes les perversions qui sont dans ce monde. Parce qu'en vérité, quand je parle des limites de ce monde, je parle de quoi ? Je parle justement de toutes les forces obscures qui nous font tomber dans ce monde, dans la débauche, dans la perversion, dans l'idolâtrie, dans toutes les fautes de ce monde. C'est ça la prison de ce monde. Et donc Adam, conscient ou non, lorsqu'il a commis sa faute, que j'ai déjà expliqué d'une manière beaucoup plus profonde dans d'autres cours, lorsqu'il a commis sa faute, il nous a déconnectés de cette force divine qui provient de la Bina. Automatiquement, on n'avait plus aucune possibilité de tenir face à toutes les tentations, à toutes les séductions et à toutes les corruptions qui, comme un tsunami, sont venues s'emparer de l'humanité. Et dans sa grande majorité, l'humanité est complètement tombée à l'intérieur de ses forces. Et tout le but du Mashiach et de tous ceux qui, de génération en génération, préparent son chemin et préparent sa venue, le but ultime du Mashiach sera justement de reconnecter le monde d'en bas au monde d'en haut. Donc, je reviens maintenant à ce que dit le Zohar. Les cinq fois que le mot « or » est utilisé, est prononcé dans le premier jour, fait allusion aux lumières de la Bina. C'est-à-dire qu'au départ, jusqu'à la faute de Adam, Dieu voulait connecter le monde d'en bas au monde d'en haut. On continue. « Kedé le'ahir el amalchut le toelet ha'olam » Le but était que la Bina se connecte à la Malchut. La Malchut, c'est le monde d'en bas, le monde matériel, mais c'est aussi la manière dont les hommes dirigent le monde d'en bas, puisque dans le mot Malchut, il y a le mot Meler qui veut dire un dirigeant. Et donc le but était de connecter les dirigeants qui dirigent le monde d'en bas et qui sont censés, on pourrait dire, apporter le meilleur à leur peuple. Le but était de connecter les dirigeants avec cette lumière divine de manière à ce qu'ils aient en eux une grande connaissance et une grande action morale et spirituelle, de manière à ce que véritablement la direction du monde soit véritablement pour le bien des peuples. Mais malheureusement, comme on va le voir, depuis la faute de Adam, il y a une déconnexion totale et les dirigeants sont tombés plus encore que les peuples dans la corruption, dans la débauche et dans toutes les fautes, plus encore que les peuples. Donc le but était de connecter la Malchut à la Bina, ou Ksheraa à Ma'atzil, mais lorsque Dieu a vu, She'areshaim She'yavu la'olam, qu'un jour les Reshaim, bon, j'aime pas trop la traduction, les corrompus, les débauchés, les idolâtres, tous les méchants de ce monde qui vont d'une certaine manière prendre la direction de ce monde, tout ça bien sûr à cause de la faute de Adam, yigremu al yedei avonotehem, et ils vont causer à cause de toutes leurs fautes, she'ishletu achitzonim v'yinaku min hachamisha chassidim sheba malchut, et que d'une certaine manière ils vont tout faire pour détruire la connexion entre le monde divin et le monde matériel, puisque les Rechaïm, par définition, veulent complètement déconnecter notre monde du monde d'en haut. Lorsque Dieu a vu que cette lumière était en danger, parce que les Rechaïm feraient tout pour l'éliminer, en tout cas pour qu'il y ait une déconnexion totale, exactement comme quand on a la lumière à la maison et qu'on éteint l'interrupteur, et ben on est dans l'obscurité. Ben c'est exactement la même image. Il y avait une forme de lumière dans ce monde, mais Dieu a vu à long terme qu'à cause de la faute de Adam Harishon, les Rechaim se battraient essentiellement sur cette connexion pour déconnecter le monde d'en bas du monde d'en haut. Silek or zemina malchut, Dieu a enlevé cette lumière de la malchut, c'est-à-dire dans un langage clair et français, c'est-à-dire que finalement, Dieu a déconnecté les dirigeants de cette énergie divine et les dirigeants sont devenus les plus grandes crapules depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul dirigeant qui n'est pas, même s'il le cache, qui n'est pas une extrêmement grande crapule. Et donc, où Dieu a caché cette lumière, puisque cette lumière va devenir ce que nos maîtres appellent le Or Haganouz, la lumière cachée, où il va la cacher? Donc il l'a sorti de la Malchut, donc les dirigeants sont sans cette lumière, et donc automatiquement les peuples aussi, puisque étant dirigés par des gens corrompus qui vont faire rentrer dans le peuple toute une idéologie de faute et de corruption, de débauche et d'idolâtrie, puisque ça va être tout leur projet, donc les peuples vont tomber eux aussi. Veidganiz, Veichlil Bebrit. Dieu a caché cette lumière dans le Brit, dans l'Alliance. Alors, le Brit fait aussi allusion à la partie de l'homme et de la femme qui permet justement la procréation, d'avoir des enfants et de continuer le monde. Mais le mot Brit, dans le langage réel, veut dire l'Alliance. Ça veut dire qu'il a caché, et je vais expliquer dans quelques instants, cette lumière dans l'endroit du corps qui est censé représenter l'alliance entre l'homme et Dieu. Shehua Yesod, et ce Brit correspond à l'attribut divin qu'on appelle le Yesod, les fondations. Je vais expliquer dans quelques instants. Ahude al Beshoshana, et le Brit, c'est lui qui est censé reconstruire la rose, comme on l'expliquait dans les cours précédents, fait allusion à la Malchut. Le Brit est censé reconstruire la Malchut. Aïnou oto ayesod, amit yached imashoshana shiwa Malchut. Au moment de la délivrance, le Yesod, le Brit, se connectera entièrement avec la Malchut. Ve'afik be'zera. Et du Brit sortira une semence, qui fait allusion à une semence spirituelle, ou motzi ou mashpia bazera akodesh, une semence de sainteté, chez ou or, qui est cette fameuse lumière qui se cache dans le Brit. Veda ikre etz ose peri, le Brit s'appelle un arbre qui fait des fruits, asher zarobo, qui porte en lui une semence. J'explique selon le commentaire. Veza yeson nikra etz sheos sepri. Il est appelé un arbre qui fait des fruits, mais où ces fruits vont être déposés? Ba malchut, dans la malchut, dans la direction de ce monde. Vehem neshamot atzadikim. Et en vérité, ces fruits qui un jour se connecteront à la malchut sont les tzadikim, sont les justes authentiques, qui justement naissent de l'union entre le Yesod et la Malchut. On va s'arrêter là pour l'instant, car il y a tellement de choses à expliquer. On va revenir maintenant, je voudrais donner une image assez, on pourrait dire une image très convaincante de ce que signifie l'union entre le Brit et la Malchut. Alors, le Brit fait allusion, comme on l'a vu, au tzadikim authentique. Alors d'abord, comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, et je reviens sur cette notion parce que je ne me lasserai jamais de revenir sur cette notion dans la mesure où aujourd'hui, 99,9% des hommes et des femmes, y compris dans le monde religieux, ont une définition du tzadik qui est complètement fausse. Généralement, dans le monde religieux, on appelle le tzadik celui qui est complètement connecté au monde spirituel et qui ne vit que dans le monde spirituel. Or, c'est le plus grand mensonge jamais émis sur terre. Le tzadik, comme on le voit clairement dans le Zohar, est celui qui se connecte à la malchut. Ça veut dire celui qui se connecte au monde matériel dans le but de le réparer et de le ramener à sa connexion avec le monde d'en haut. Donc le tzadik s'occupe essentiellement du monde matériel. Tous ceux qu'on appelle aujourd'hui des tzadikim, qui sont uniquement dans le monde spirituel, qui ne font que étudier, que prier, etc., mais qui n'ont aucune connexion avec le monde matériel, ne sont pas des tzadikim. Je ne dis pas que ce ne sont pas des gens bien. On a besoin de ceux qui étudient. Mais ce ne sont pas les tzadikim. Et comme je vais le prouver dans quelques instants. Comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, et c'est ce que le Zohar dit, le tzadik est celui qui se connecte au monde d'en bas et qui a le courage d'essayer de transformer le monde, de transformer les dirigeants et de les reconnecter au monde d'en haut. Quel est le seul personnage biblique qui est appelé tzadik? Yosef. Yosef ha-tzadik. Pourquoi c'est le seul qui est appelé tzadik? Parce qu'il a passé toute sa vie en Égypte et 80 années de sa vie à diriger le pays le plus corrompu, le plus débauché, le plus idolâtre, et il n'est jamais tombé. Et toute sa vie, il a œuvré pour essayer d'améliorer la situation de l'Égypte en ayant une direction propre, morale, et connecté au maître du monde, comme il est dit souvent dans les versets au sujet de Yosef, « Ve'Hachem imo, Ve'Hachem imo, Dieu était avec lui, Dieu était avec lui. » Donc on voit que c'est absolument impensable, même qu'aujourd'hui 99,9% des rabbanim le disent, mais ils sont tous dans une erreur inimaginable, le tzadik, c'est pas celui qui ne vit que dans le monde spirituel. Le tzadik est celui qui est rempli de spiritualité, d'une spiritualité authentique. Et pourquoi je dis authentique? Parce qu'il sait que toute cette énergie spirituelle doit être déversée dans le monde d'en bas afin de le reconnecter au monde d'en haut. Et donc il doit agir dans le monde d'en bas. C'est exactement encore une fois ce que le Zohar dit, la connexion entre le Brit, l'Alliance et la Malchut. Maintenant, on va prouver ce que je dis encore plus, de deux manières. Pourquoi justement c'est la partie sexuelle du corps chez l'homme et chez la femme qui est appelée Brit? Et Dieu nous dit, le Zohar nous dit que Dieu a caché la lumière à cet endroit-là. Mais cet endroit-là, c'est l'endroit qui fait tomber le plus l'homme et la femme. Dans le monde d'aujourd'hui et dans toutes les générations, la grande majorité des hommes et des femmes sont débauchés. Et ne se respectent pas dans le sens de vivre un homme et une femme toute leur vie ensemble. Et aujourd'hui, n'en parlons pas. Donc, comment Dieu cache la lumière là-bas? Parce que justement, c'est ce que j'ai expliqué dans d'autres cours, mais aujourd'hui c'est tellement fort avec ce texte du Zohar, Dieu cache la lumière divine justement dans les endroits les plus matériels, les plus sombres, les plus obscurs. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que c'est précisément la dimension la plus obscure qu'il faut réparer. C'est-à-dire qu'en vérité, l'homme ne se rend même pas compte que dans l'endroit de la sexualité se cachent en lui des forces inimaginables qui peuvent faire de lui un homme extrêmement propre, extrêmement fidèle. Mais ces forces-là, il est complètement déconnecté de ces forces-là parce qu'il ne sait même pas qu'elles sont cachées à l'intérieur de sa sexualité. Et c'est pour ça qu'il devient, dans 99,9% des hommes et des femmes sur Terre, des êtres complètement débauchés. Alors il y a des niveaux de débauche, bien sûr. Mais on peut compter sur les 5 doigts de la main un homme marié toute sa vie qui ne trompera pas sa femme ou la femme qui ne trompera pas l'homme. On peut les compter sur les 5 doigts de la main. Pourquoi? Parce que l'homme est complètement déconnecté de cette lumière qui est cachée justement dans la partie de son corps qui le fait le plus tomber. Et encore une fois, pourquoi Dieu cache la lumière dans cette partie-là? Pour nous faire comprendre que tout le travail de l'homme, c'est de réparer l'obscurité de ce monde. Pourquoi justement Yosef est appelé le tzaddik? Parce que comme nos maîtres nous l'expliquent, c'était un homme extrêmement beau. Le Midrash dit que quand il a pris la tête de l'Égypte à l'âge de 30 ans, il était tellement beau que toutes les Égyptiennes, quand elles le voyaient, elles perdaient, elles devenaient folles. Elles couraient derrière lui, elles lui jetaient de l'argent, elles lui disaient « viens chez moi ». Il était pendant des décennies constamment agressé par des milliers de femmes et il n'est jamais tombé. Pourquoi ? Parce qu'il était connecté à cette lumière cachée à l'intérieur de son brit. Et il savait que si Dieu a caché la lumière là, c'est pour faire de lui un homme propre, un homme authentique, un homme fidèle à son épouse qu'il avait épousée, avec laquelle il a eu 2 enfants et qu'il n'a jamais trompé. Ça, c'est le secret de la lumière cachée. Donc la lumière cachée se cache dans la partie la plus matérielle de l'homme, la sexualité. Et encore une fois, je me répète, le message est de nous faire comprendre que l'homme n'a été créé que pour réparer et pour illuminer les parties les plus sombres de ce monde. C'est ça la responsabilité de l'homme. Et seulement celui qui arrive justement à faire briller cette lumière dans les dimensions les plus obscures de ce monde, seulement lui s'appelle tzaddik. Mais jamais un homme qui est complètement dans un monde spirituel peut être appelé tzaddik, puisqu'il n'a aucune tentation, il n'a aucune séduction. Il n'a aucun lien avec tout le monde de la corruption et de la débauche. Et donc comment peut-on l'appeler tzaddik ? Il est d'ailleurs même fort possible que s'il sortait de son monde illusoire et rentrait dans le monde réel, peut-être qu'il tomberait tout de suite, parce qu'il ne s'est jamais préparé à tenir tête à toutes les tentations et toutes les séductions de ce monde. Et donc en aucun cas on peut l'appeler un tzaddik. Le tzaddik est celui qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Alors, je reviens encore une fois à ce que le Zohar dit, que finalement, quand Dieu s'est aperçu, à cause de la faute de Adam, que le monde allait être rempli de réchaïm, de gens corrompus dans tous les aspects de l'existence, et que ces gens-là, pour pouvoir s'accaparer le monde, feraient tout pour déconnecter le monde de la Bina, alors qu'est-ce qu'a fait Dieu ? Normalement, celui qui ne comprend rien aurait dit, il a repris sa lumière et il l'a ramené en haut. C'est exactement le contraire. Dieu a fait exactement le contraire. Il a pris sa lumière et il l'a cachée dans la sexualité. Comme pour dire, je sais que 99,9% des hommes et des femmes vont tomber, mais si j'en trouve un, si j'en trouve deux, si j'en trouve trois dans chaque génération, qui sont dans ce monde et qui ne tombent pas, ceux-là sont les graines qui amèneront la délivrance finale. J'en ai pas besoin de 1 000, j'en ai pas besoin de 10 000. Je sais très bien que c'est une illusion totale, se dit Dieu à lui-même. Mais si dans chaque génération j'ai une poignée d'hommes qui sont dans ce monde et qui ne tombent pas, ceux-là sont les graines de la délivrance finale. Comme dit le Zohar, ils mettent leurs fruits dans la malchoute. Ça veut dire qu'ils préparent, ils mettent leurs semences dans la malchoute, qu'il faut comprendre, ils mettent leur lumière dans la malchoute, et au fur et à mesure, avec le temps, ils arriveront à réparer la malchoute et à la reconnecter à la Bina. Ce qui veut dire que, pour conclure, après on va continuer un petit peu, pour conclure, on comprend que finalement, et je l'ai expliqué aussi avec notre grand ami Eliaou Bokara dans les cours sur le Likutei Moharam, on en a fait 1 ou 2 cours qui parlent aussi de la sexualité, Rabbi Nachman nous explique lui aussi. Il vient bien sûr longtemps après le Zohar, mais évidemment il se réfère au Zohar, que finalement, on pourrait dire que le travail moral et spirituel le plus important de l'homme, qui dépasse tous les autres, c'est être dans ce monde et ne pas tomber dans la débauche. Or ça, c'est une chose que 99,9% des hommes n'arrivent pas à surmonter. Qu'ils soient laïcs, qu'ils aient une kippa sur la tête, s'ils sont dans ce monde, ils tombent. Ça ne change rien. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, moi j'ai parlé de 2-3, mais j'ai un petit peu exagéré, que dans chaque génération, il n'y a que 36 justes authentiques. 36 justes authentiques. Et encore une fois, ça veut dire des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans ce monde, qui vivent, etc., mais qui ont un couple inimaginablement bien construit, et qu'il y a une fidélité et un amour profond dans le couple, qu'aucune séduction dans le monde ne pourra casser. C'est ça les 36 justes qui sont dans ce monde, dans chaque génération. Nos maîtres osent dire qu'il n'y en a pas plus que 36. 36 justes dans chaque génération. C'est-à-dire, on pourrait dire, la lumière du couple. C'est là-bas que la lumière de la Bina est cachée. Et ce sont ces 36 justes qui préparent la délivrance finale. Ce qui veut dire que pour chacun d'entre nous, on doit comprendre qu'à partir du moment où dans ce domaine, on n'est pas quelqu'un qui est véritablement connecté à la Bina, même si on mange kasher, même si on fait Shabbat, même si on a une kippa ou un chapeau sur la tête, on n'a rien de plus que le plus grand des laïcs. Parce que c'est dans ce domaine que Dieu nous éprouve. Et si dans ce domaine, tu n'es pas un homme propre, alors tout ton habit, c'est uniquement un déguisement. Que tu sois un curé, un prêtre, un rabbin, peu importe. Alors évidemment, il y a différents niveaux de chute. Il y a ceux qui ne chutent pas physiquement, mais qui ont des pensées mauvaises, qui ont des tentations, même s'ils ne les concrétisent pas. Et vous savez ce que nos maîtres osent dire? C'est dans le Talmud, dans Maseret Yoma, que celui qui a des pensées sexuelles négatives, c'est plus grave encore que celui qui fait un acte sexuel interdit. J'avoue franchement que j'ai du mal à comprendre ce que disent nos maîtres. Si un homme fait un acte sexuel interdit, comment peut-on dire que celui qui ne le fait pas mais qui a constamment des pensées négatives, sexuelles négatives, comment celui-là serait pire encore que celui qui agit? Comment c'est possible? Alors, j'ai vu une fois un commentaire extraordinaire qui explique, parce que celui qui faute, il est fort possible qu'il va se rendre compte de l'erreur inimaginable qu'il a fait, surtout s'il a une femme qu'il aime, ou un homme ou un mari qui l'aime, etc. Et peut-être qu'après cette faute, il fera une véritable teshuvah. Mais par contre, celui qui ne faute pas, physiquement, n'est pas vraiment dérangé par toutes ses pensées. Et elles peuvent l'accompagner pendant des années et des années et des années. Et donc, automatiquement, il est rempli de pensées négatives et il ne fait pas teshuvah. Il ne revient pas, puisqu'il dit, de toute façon, moi, j'ai pas fauté, hein, j'ai rien fait. Oh, les pensées, c'est pas grave, ce ne sont que des pensées. Et finalement, nos maîtres nous disent que celui qui, pendant des années, a des pensées sexuelles négatives, est pire que celui qui a fauté. Alors, bien sûr, je ne pense pas qu'ils font allusion à celui qui faute tous les jours et qui ne fait pas tchouva. Mais je pense qu'ils font allusion à celui qui peut-être a fauté une fois ou deux, puis après il s'est repris en main, il a dit « c'est fini, je suis une crapule, j'arrête, c'est fini ». Lui au moins il revient. Mais celui qui, se justifie en disant « mais moi j'ai touché personne, hein, mais par contre t'es rempli de pensées négatives, ben t'es pire que celui qui a fauté une fois ou deux et qui est revenu ». Donc on voit que la pensée, disent nos maîtres, et pire que l'action, si elle t'accompagne tout le temps. Donc on peut comprendre que même dans le monde religieux, et arrêtons de jouer à l'autruche et nous mettre la tête sous la terre et de dire « tout va bien », c'est évident que dans le monde religieux, dans tous les mondes religieux, il y a énormément d'hommes qui ont ces pensées-là, même s'ils n'iront pas jusqu'à l'action. Eh bien nos maîtres nous disent qu'ils sont pires que ceux qui ont véritablement fait un acte de débauche. C'est encore une fois dans Maseret Yoma. C'est un texte qui est très dur à comprendre. Je l'ai un petit peu expliqué, mais c'est vraiment un texte extraordinaire. Finalement, quand tu fautes, c'est ton extériorité qui faute, ton corps. Mais quand tu as constamment des pensées négatives, c'est ton intériorité. Et l'intériorité abîmée, c'est beaucoup plus grave que l'extériorité abîmée. Voilà ce que nos maîtres osent dire. Donc c'est pour ça qu'ils disent que dans chaque génération, il n'y a que 36 justes authentiques. Et certainement pas là où on croit qu'ils sont. C'est pour ça que nos maîtres les appellent tzadikim nistarim, des justes cachés, que personne ne les connaît, personne ne sait qui ils sont. Et c'est eux qui préparent la délivrance finale. On continue. Ve'ahu zera kaima ve'od brit mamash, cette semence qui est cette lumière cachée qui prépare la délivrance finale, encore une fois, elle est cachée dans le brit, elle est cachée dans la partie du corps qui représente la sexualité. Le commentaire confirme tout ce que j'ai dit. Cette lumière qui est appelée cette semence qui va faire naître le Mashiach est cachée dans le brit, dans la partie sexuelle du corps. Et la or anishpa be malchut nishar gam ken be yesod ke mikodem ve'u ke madlik ner miner. On s'arrêtera là, je vais juste expliquer, il y a encore tout un passage qu'on verra dans le prochain cours. En vérité, il explique une chose très intéressante, que même si le tzaddik authentique essaye de construire la malchut en déversant en lui justement les lumières de la propreté morale et spirituelle, parce qu'il agit dans le monde matériel, c'est comme si quelqu'un qui allume une lumière à partir d'une lumière, une bougie à partir d'une bougie. Quand tu allumes une bougie à partir d'une bougie, la première bougie ne s'éteint pas. Mais elle donne de sa lumière, mais elle reste avec sa propre lumière. Et donc là aussi, c'est une définition de folie. Le juste authentique, le vrai juste, rentre dans ce monde, déverse de la lumière dans ce monde, mais lui-même garde sa lumière, il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Il donne de sa lumière, ça veut dire qu'il rentre dans ce monde d'obscurité, dans ce monde de faute. Il fait rentrer de sa lumière dans ce monde, mais il ne tombe pas. Sa lumière reste. Il a donné de sa lumière, mais sa lumière ne s'éteint pas. Ça veut dire, traduit dans un langage beaucoup plus clair, le juste authentique est celui qui s'investit dans ce monde, pas uniquement qui donne des cours et des choses comme ça, tout ce qu'on appelle les rabbanim. Eux ne sont absolument pas des tzadikim. C'est quelqu'un qui vit dans ce monde, qui travaille dans ce monde, qui a des épreuves, des tentations, des séductions, et sa lumière ne s'éteint jamais. Ça, c'est le juste authentique. Sa lumière ne s'éteint jamais. Voilà mes amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra bien sûr ce cours que je pense très très important la semaine prochaine. À tous et à toutes, une très très bonne journée.